Le salut d'un musulman. Alors, je voudrais parler dans ce conte de la question du salut des musulmans. En ce moment, pour les chrétiens, l'islam est redevenu une vraie question. Ils se demandent comment il est possible qu'une telle religion, qui nie la divinité de Jésus, puisse avoir eu un tel succès qu'elle a pris pratiquement toutes les anciennes chrétientés apostoliques, celles qui avaient été fondées par les apôtres au début de l'Église. Les grands patriarcats de l'époque, sont devenus des terres d'islam. Et certains, de manière un petit peu matérielle, prenant un texte de Saint Jean qui dit « Qui est l'Antichrist, sinon celui qui nie le Fils ?» c'est-à-dire la divinité de Jésus, eh bien, en sont conduits à dire que l'islam serait l'antichrist, peut-être même le dernier antichrist, celui qui doit venir à la fin du monde. Eh bien, cela, on ne peut absolument pas le dire. D'abord parce que le texte de Saint Jean qui dit « Qui est l'antichrist, celui qui nie le Christ ?» fait référence à l'attitude de ceux qui nient la divinité du Christ, lorsqu'elle est évidente, lorsqu'elle est manifestée de manière parfaite. Donc Saint Jean vise quelques prêtres du temple de Jérusalem qui, ayant assisté au miracle de Jésus, avaient tout de même décidé de le tuer. Il vise aussi ceux qui, à l'heure de la mort, lorsqu'ils verront le Christ apparaître dans sa gloire, et manifestement sa divinité sera révélée, continueront de ne pas croire malgré l'évidence. Donc les musulmans ne sont pas du tout visés. D'abord, ils n'existaient pas à l'époque de Saint Jean, mais en plus, eux, s'ils nient la divinité du Christ, c'est sur terre, c'est parce qu'elle ne leur est pas évidente. Ils suivent dans leur foi la parole de leur prophète Mohammed. D'autre part, le Concile Vatican II, qui est inspiré par l'Esprit Saint, qui n'est pas qu'un concile pastoral, même s'il a des parties pastorales, affirme dans son texte, dans plusieurs textes sur l'islam, qu'il a une grande estime pour cette religion qui adore le Dieu unique. Donc elle n'adore pas du tout le démon, elle adore le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, qui croit qu'il y aura une récompense pour les justes, qui croit en la vie éternelle, qui reconnaît Jésus comme le Messie, même si cette religion reconnaît Jésus comme un simple homme, pas comme Dieu fait homme. Et même si elle nie qu'il soit mort sur la croix, qu'il ait proposé à Dieu, aux hommes, une vie de charité, c'est-à-dire d'amitié avec Dieu, etc. Hamza était un musulman fervent. Il avait émigré en Europe dans les années 70 et il avait vécu dans une société qui était post-chrétienne. Lui, silencieusement, continuait de pratiquer les 5 prières par jour et d'adorer Dieu. Il avait au début pensé que les chrétiens, et il en rencontrait peu, étaient polythéistes. Puis, en discutant avec eux et devant leurs protestations, il s'était rendu compte que, en fait, ils étaient bien monothéistes, mais comme disait Mohammed, ils exagéraient dans leur rapport avec Dieu. Ça veut dire qu'ils avaient tellement aimé Jésus, leur prophète, qu'ils avaient fini par le diviniser. Et ils croyaient vraiment en un Dieu unique, mais avec une vie intérieure, très curieuse, et qu'ils ne comprenaient pas. Hamza, qui était un petit peu solitaire dans cette terre d'Europe, avait fini par se faire une synthèse de sa propre religion. Il savait que Dieu était miséricordieux, c'était le premier verset du Coran, et il avait une grande confiance que de cette manière-là, il lui pardonnerait ses propres péchés, parce qu'il n'avait pas toujours été très fidèle à sa religion, aux préceptes matériels qu'il fallait suivre. Il avait parfois bu de l'alcool, il n'avait pas suivi toujours le ramadan, etc. Il avait fini par se dire que Dieu ne pouvait pas damner comme cela ses amis chrétiens sous prétexte qu'ils n'avaient pas adoré à sa propre foi. Il constatait que s'ils étaient chrétiens, c'était vraiment avec honnêteté. Et à force de réfléchir, il avait fini par comprendre que Jésus, le Messie, leur apparaîtrait sur le lit de mort et viendrait leur prêcher l'islam. Et comme le disait le Coran, il détruirait la croix, c'est-à-dire qu'il dirait qu'il n'est pas mort sur la croix. Il tuerait le cochon, donc il leur ferait appliquer les préceptes du Coran. Et eux, étant sincères, deviendraient simplement des serviteurs de Dieu pour l'éternité. Il en avait souvent discuté avec ses amis chrétiens, et l'un d'eux, une fois, lui avait posé cette question étrange. « Et si Jésus se révélait être Dieu fait homme, qu'est-ce que tu ferais, toi, Hamza ?» Et Hamza n'avait pas répondu, très surpris devant une telle incongruité à laquelle il n'avait jamais pensé. Hamza mourut dans les années 90. Il fut renversé par une voiture alors qu'il était en retraite. Il fut mené à l'hôpital, l'imam passa, et il put, avec lui, juste avant que son cœur s'arrête, réciter la confession de foi. « Je crois en Dieu qui est l'unique, et je crois que Mohammed est son prophète. » Et le cœur d'Hamza s'arrêta, et il se retrouva vivant, à côté de son corps, dans la chambre d'hôpital. Et voilà qu'autour de lui se tenaient quatre personnes, quatre hommes dont le corps était lumineux. Et comme dans une intuition, il reconnut devant lui Abraham, qui est le père de tous les musulmans. Les musulmans pensent avoir la foi d'Abraham dans le Dieu unique et se soumettre à Dieu comme lui. Il reconnut aussi le prophète Élie, celui qui s'était battu avec tant de zèle pour l'honneur de Dieu. Il reconnut aussi Job, qui avait souffert énormément et qui, dans les plus grands tourments, ne s'était jamais révolté contre Dieu, s'était soumis à sa volonté en se prosternant. Et il vit enfin Mohammed, le sceau des prophètes, celui qui était venu rappeler toutes ces vérités et qui avait créé cette religion qui était la sienne. Hamza fut bouleversé par tant d'honneur qu'on lui faisait à lui, petit musulman, en venant l'accueillir ainsi dans l'après-vie. Abraham fut le premier à parler et il le remercia. Il lui dit « Hamza, toute ta vie, tu t'es forcé d'adorer le vrai Dieu, d'imiter et d'être mon fils. Eh bien, tu l'es vraiment. Merci d'avoir été si fidèle. » Ensuite, c'est Élie qui parla, qui lui dit « Tu as essayé de faire connaître le Dieu unique autour de toi. C'est bien. En cela, tu as imité mon action. Tu as eu du zèle pour ta religion. » Job ensuite prit la parole et lui dit « Tu as été séparé de ta famille longtemps. Tu as travaillé pour eux, tu as envoyé ton argent au pays. Et dans ces grandes souffrances, tu ne t'es pas révolté. Tu as continué d'adorer Dieu. Tu es vraiment mon imitateur. » Et enfin, Mohammed, le sceau des prophètes, prit la parole et lui dit « Tu as été un grand pécheur. » Mais tu as toujours cru en la miséricorde de Dieu, tu l'obtiendras. » Hamza était bouleversé par ces paroles qui le touchaient au plus profond du cœur. Alors il se prosterna devant eux. Mais eux aussitôt le relevèrent en lui disant « Mais non, ne te prosterne pas devant nous, nous sommes comme toi des serviteurs. » Puis Mohammed prit la parole et lui dit « Tu as toujours voulu être fidèle à Dieu, n'est-ce pas? Et tu es prêt à faire sa volonté, quelle qu'elle soit. Eh bien, je vais te révéler aujourd'hui un secret. Es-tu prêt à l'accepter? » Et Hamza répondit, Oui, Seigneur, bien sûr. Tu sais bien, je n'ai cherché que la vérité. Alors Mohammed l'invita à le suivre et l'entraîna dans le passage de la mort, celui qui mène à l'autre monde. Il franchit ce passage et se retrouva de l'autre côté en présence d'une lumière immense qui n'était pas qu'humaine, qui était bien plus grande. Le visage de cette lumière resplendissait comme le soleil et pourtant elle n'éblouissait pas. Hamza vit son âme. Il reconnut en lui toute une qualité d'amour, de vérité. Et il ne se sentit en rien condamné. Et une voix dit à l'intérieur de lui, « Voici Issa, le fils de Mariama. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Et Hamza comprit, en un éclair, que cet être-là, si fabuleux, n'était pas qu'un homme, mais qu'il était vraiment Dieu fait homme. Et il en fut profondément étonné. Il vit aussi tout ce qu'il avait souffert sur la croix. Et cela bouleversait complètement sa conception de Dieu. Alors, sans hésiter, il se prosterna et il l'adora. Mais quelqu'un le toucha et le releva. Il se redressa et il n'y avait plus que Jésus seul devant lui. Les autres avaient disparu. Jésus lui dit, « Tu as été toute ta vie serviteur fidèle. Accepterais-tu de devenir maintenant ami de Dieu ?» Chacun obtient au ciel le niveau d'amitié qu'il veut avec Dieu. Certains veulent être les amis de l'époux. Et ils le sont. D'autres ont des désirs si grands qu'ils veulent devenir l'unique épouse. Et ils le deviennent. On peut devenir l'ami de Dieu parce que je me suis fait homme, je me suis abaissé et j'ai élevé l'homme pour qu'il devienne comme un égal avec moi. Sans hésiter, évidemment, Hamza accepta avec enthousiasme d'entrer dans cette nouvelle relation à Dieu. Mais prenant au sérieux cette amitié, il voulut poser quelques questions. Il s'étonna et il demanda « Mais s'il est possible d'être ami avec Dieu, si vraiment Jésus est mort sur la croix, et si tu es Dieu, alors pourquoi ?» Est-ce que ce n'est pas dit à tous mes frères sur la terre? Pourquoi est-ce qu'il y a l'islam, plus d'un milliard de croyants sincères? Et Jésus lui répondit, « Tant qu'on est sur la terre, c'est mieux. S'il n'y a qu'une seule religion sur la terre, même si elle est la vérité, l'homme, parce qu'il est orgueilleux, il se met à tuer pour cette religion-là en croyant servir Dieu. Voilà pourquoi je divise l'humanité tant qu'elle est sur la terre. Mais je l'ai promis à mes disciples. L'heure vient où il n'y aura plus qu'un seul troupeau, un seul pasteur. Parce que les musulmans, mes serviteurs, eux aussi, l'évangile, je leur annonce lorsque je parais dans ma gloire. Mais Hamza insista, imitant un peu Abraham, qui avait négocié avec Dieu le salut de Sodome et Gomorre. Mais certains de mes frères fondent leur foi sur le fait que tu n'es pas Dieu fait homme. À l'heure de la mort, quand ils verront que tu es Dieu fait homme, ils le refuseront. Et Jésus répondit, j'ai mis dans l'islam un goût pour la vérité et l'humilité. Tout homme qui est sincèrement musulman, lorsqu'il voit la vérité, il l'accepte. Donc n'aie aucune crainte pour cela. Celui qui se damne, se serait damné de toute façon. pour un autre motif. Il aurait refusé mon amour, par exemple, ou mon humilité. Et Hamza fut convaincu. C'était tellement sage de la part de Dieu. Il lui fallait encore affronter d'autres chemins avant d'entrer dans la vision béatifique. Il lui fallait rencontrer la présence de Lucifer, l'ange révolté, qui devait lui présenter l'enfer. Mais Hamza avait été préparé. Sa religion l'avait disposé à être humble. Alors Lucifer n'eut aucune influence sur lui. Cette histoire veut montrer à quel point il faut être paisible face à l'islam qui grandit, parce que Dieu ne donne comme croissance à l'islam que ce qu'il veut, ainsi que d'ailleurs au christianisme et aux autres religions. Si Dieu a livré les anciennes terres chrétiennes à l'islam, c'est aussi pour donner une leçon aux chrétiens, afin qu'ils comprennent que même s'ils ont reçu le trésor de la vérité, de la Sainte Alliance, elle peut devenir source de perdition s'ils sont orgueilleux. La seule chose qui est sûre, c'est que, à la fin des fins, Jésus a vaincu le monde, et que tout homme qui cherche la lumière viendra à lui. La théologie catholique, dans un langage beaucoup plus complexe, a toujours affirmé que l'islam ne sauve pas en lui-même. Et c'est vrai. Si on considère le salut comme l'entrée dans un amour d'amitié concret, vécu dans la prière du cœur avec Dieu, l'islam ne sauve pas, sauf peut-être quelques confessions minoritaires considérées comme hérétiques. Les soufistes, par exemple, qui croient pouvoir vivre d'une amitié avec Dieu. L'islam ne sauve pas, et certains en ont conclu, donc l'islam perd. Et ça, c'est tout à fait une erreur théologique. La vérité, elle est entre les deux. L'islam ne sauve pas en lui-même, n'apporte pas l'amour d'amitié, puisqu'il la refuse. Les musulmans sincères ne veulent qu'être des humbles serviteurs. L'islam ne perd pas non plus. Comment un serviteur de Dieu pourrait-il devenir ennemi de Dieu? Sauf s'il devient islamiste politique. Et là, son Dieu, c'est Satan. Mais c'est autre chose, ce n'est pas l'islam. Donc les théologiens catholiques, la théologie catholique a toujours dit, depuis le Concile de Trente, même si ce n'est pas dit pour l'islam explicitement, que l'islam prépare le salut. Comme Jean-Baptiste préparait la venue du Messie. Il le prépare en mettant dans le cœur de ses adeptes des dispositions. Quand le Christ revient, il les trouve et il les sanctifie en proposant sa grâce. Et les dispositions que l'islam met dans le cœur de l'homme sont bien plus grandes que celles que met par exemple le bouddhisme, qui lui pour sa part ne met que l'humilité, le détachement par rapport à la terre. L'islam en plus met la certitude qu'il existe un Dieu unique et personnel et qu'on se retrouvera de l'autre côté, avec lui, sauvé, dans un paradis personnel. Alors évidemment, certains identifient l'islam et la révolte islamiste actuelle. Ils ont bien tort. Et il faut faire confiance à Dieu qui saura tout à fait, au moment qu'il voudra, apprendre à l'islam à redevenir humble comme il le fut à Médine au début, avant que Mohammed ne donne les sourates de la guerre qui eurent malheureusement une influence terrible dans la suite des événements.